Je me trouve dans la salle de fonction cinéma, au rez-de-chaussée de la Maison des Arts et du Cinéma du Grutli, avec Jean-Pierre Gontard, président du Festival Filmart. Bonjour.
Bonjour.
Et qui accessoirement était directeur adjoint de l'IED, qui maintenant a été phagocyté par une institution beaucoup plus importante. Mais l'IED, qui était donc l'Institut des études universitaires consacré au développement et à la coopération, où vous avez aussi enseigné. Et là, on se retrouve dans ce cadre de la 20e édition du Festival Filmart en Amérique Latine, qui se développe à la fois à Genève, mais aussi dans d'autres communes et partenaires pour les projections. Cette 20e édition, elle est très importante par rapport à l'anniversaire, bien sûr, mais aussi par rapport aux thématiques qui sont abordées, sociétales, sociologiques et politiques. En l'occurrence, en Amérique Latine, ça bouge beaucoup. Parmi les 90 œuvres qui vont être présentées lors de cette édition, y a-t-il des coups de cœur qui vous ont vraiment particulièrement touché et pour quel motif?
Oui, les 20 premières années du festival ont été l'occasion de découvrir pas mal de belles œuvres. Des œuvres qui, certaines sont restées, continuent à circuler, pas tellement, mais quand même sont toujours dans des circuits commerciaux, et d'autres qui ont été complètement oubliés. Et alors cette année, ce que nous avons cherché, c'était d'abord, comme toujours, d'essayer de faire le point de la production des 18 derniers mois, et de faire une sélection parmi ces 18, et puis parmi ces films-là, et puis de ressortir de l'oubli injuste, certaines très belles réalisations. C'est pour ça que nous avons une structure un peu différente des autres années. Nous avons demandé à Édouard Weintraub, qui est le responsable de la quinzaine des réalisateurs à Cannes, on lui a dit, est-ce que tu peux nous faire une sélection de ce qui, d'après toi, serait une liste de 5 très beaux films qui ne méritent pas d'être oubliés. Alors on aura ces films-là. Et puis, il y a les films classiques de cette année. Cette année, nous avons comme caractéristique une très forte production argentine. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, parce qu'on pourrait faire tous les ans un festival de cinéma argentin. Tellement...
Qui se porte assez bien, il y a une dynamique importante.
Oui, qui est fantastique. Au moment du Corralito, quand c'était la grande crise économique en Argentine, personne ne pouvait sortir plus de $200 par mois, alors qu'ils avaient l'argent dans les comptes. Ils ont continué à faire des films. Les écoles privées de cinéma ont continué à fonctionner. Donc ça, c'est l'Argentine. Et puis, ce que nous avons, qui est peut-être plus original cette année, on a 9 films brésiliens. Ce ne sont pas des films qui ont été produits il y a 2 mois ou 3 mois. Hein. C'est les dernières 2 années, disons. Et il semble qu'on a là une sorte de... Je ne veux pas dire une nouvelle vague, mais il y a une bonne production comparée à ce que ça a pu être les années précédentes. Et je ne pense pas que la situation politique, on pourra revenir là-dessus plus tard peut-être, que la situation politique soit absolument contre le cinéma, mais peut-être même va susciter, provoquer des intentions assez original, s'intéressant peut-être plus à la situation sociale. Et puis nous avons des films de pays moyens, je dirais, comme le Chili, la Colombie, qui sont pas mal. Le Mexique un peu moins, alors que ça a été pendant longtemps un de nos grands pays d'intérêt. Et avec à la fois des productions spécifiquement mexicaines et puis même aussi des coproductions. Enfin voilà, nous cherchons aussi chaque année à avoir des films venant de petits pays. Quand je dis petits pays, il ne faut pas le prendre mal. Des pays qui ont peu de cinéastes, peu de réalisateurs.
Et du coup, peu de visibilité sur la scène internationale.
Oui, qui sont des films qui ne sont pas achetés par des distributeurs. Bref. Enfin voilà, cette année, donc, je dirais, nous avons surtout des films argentins, des films brésiliens, et puis, classiquement, des Colombiens. Nous avons 10 films colombiens. Voilà, en gros. Je ne veux pas en souligner l'un plutôt que l'autre. Nous avons une liste de films pour le prix du public. C'est le seul prix que nous donnions. Non, c'est un peu exagéré. Il y a aussi le prix des jeunes. Mais le prix des jeunes, cette année, nous avons modifié un peu le règlement. Ils doivent s'intéresser au même que ceux que nous avons sélectionné pour le prix du public. Donc ce sera intéressant de voir en quoi des jeunes collégiens, la plupart, ont un point de vue différent du prix du public. Et pour moi, le prix du public, c'est le seul prix qui vaille vraiment la peine dans les festivals. On a toujours, sinon des preuves, au moins des soupçons d'arrangement bienveillant, mais d'arrangement.
Collégialité ou des copinages inavouables. Oui. Et par rapport aux thématiques dominantes, est-ce qu'il y a des thématiques qui ont été privilégiées ?
Oui, alors il y a quand même une thématique qui est assez. Qui depuis 2 ou 3 ans est assez importante. C'est tout ce qui concerne l'environnement, mais c'est pas des films, ce sont pas des documentaires. Enfin, il y en a, mais peu. C'est une composante de scénarii. Alors que il y a eu pendant longtemps une préoccupation plutôt principalement sociale. Je ne veux pas dire que l'environnement ne soit pas une préoccupation sociale, mais disons qui s'intéresse plus à la nature qu'il y a des années. Il y a peu de choses concernant la violence. Ça, on peut s'en étonner. Je ne sais pas comment interpréter ça. Je dirais les télévisions locales qui se sont beaucoup développées ces dernières 20 années, les 20 années du festival, soit ont des feuilletons, soit tout simplement les petits documentaires ou le journal quotidien. Et ils consacrent beaucoup d'attention à la violence. Et peut-être que ça explique qu'il y ait moins de films qui soient consacrés à des grands thèmes de violence. Il y a toujours, et ça c'est ce que moi j'apprécie beaucoup dans le cinéma latino-américain, il y a toujours une composante certains ont appelée la magie magique de l'Amérique latine.
Subiela, par exemple, à l'époque.
Par exemple, oui. Puis beaucoup de références à la littérature. Et voilà, donc c'est du cinéma latino-américain qui est toujours, et ça j'espère que ça va durer encore quelques temps, qui est toujours latino, qui est peut-être moins à part d'être le Chili, et peut-être un peu le Mexique aussi, moins influencé directement par le cinéma européen, genre version latine de la Nouvelle Vague, comme au début, quand on a commencé le festival, l'influence majeure, c'était le cinéma italien. C'était évident qu'il y avait des... Il ne faut pas oublier, par exemple, que Garcia Marquez, quand il est venu en Europe pour la première fois, d'ailleurs à Genève, il est parti parce qu'il avait fini son boulot, il est allé à Rome et il voulait voir. D'abord, il avait dit « Je veux voir Cinecittà ». Et puis, il est resté pour quelque temps et il a commencé un cours de montage.
Et il a vu le Studio 5 où travaillait Fellini, peut-être.
Enfin, bon, bref. Là, je suis en train de faire des diversions. Mais voilà le ton général de cette année. Peu de coproductions, comme par exemple si on regarde le cinéma africain, il n'existe que par les coproductions, sauf le Nigeria, bien sûr. Et donc il y a des coproductions, sans que quelquefois il y a un ou deux acteurs ou actrices qui sont des Européens, peut-être qui n'encaissent pas, ils n'encaissent pas complètement leur cachet, je ne sais pas. Hein, c'est une façon d'aider la production. Mais sinon, assez peu. C'est aussi remplacé les coproductions par le fait qu'il y a pas mal de réalisateurs qui vont faire une année, non pas une année sabbatique comme les étudiants des régions riches, mais ils vont un an ou deux ans aux États-Unis, travailler dans des chaînes de télévision, et puis ils économisent un peu d'argent, ils reviennent et ils ont de quoi amorcer et chercher de l'argent complémentaire pour faire un film. Enfin voilà, d'une façon générale, survol de cette édition. Et nous aurons
des débats.
Alors, nous aurons des débats, avec, surtout parce que nous avons 29 invités. C'est exceptionnel. Nous avons pris des décisions qui ne sont pas toujours faciles. C'est de consacrer une partie du budget plus importante pour inviter des gens. Et ce sont à la fois des gens qui étaient classiquement invités pour la section Opéra Prima, donc des gens qui étaient peu connus, qui en étaient à leur premier, deuxième, troisième film. Troisième film, c'est déjà plus les Opéra Prima, bien sûr. Et des gens qui s'intéressent à notre festival aussi pour quelque chose qui est curieux. Mmh. C'est qu'ils viennent ici voir des films latinos qu'ils ne peuvent pas voir chez eux.
La censure ?
C'est même pas la censure, c'est qu'ils ne sont pas distribués. Mmh. Alors ils ont dans des revues ou bien des copains qui leur disent « Ah, mais tu as vu celui-ci ? Ah, ben non, mais où est-ce que tu l'as vu ? Ah, bon, je l'ai vu au Mexique, ou je l'ai vu aux États-Unis, ou je l'ai vu à Paris. » Mais ils sont contents. D'ailleurs, ils nous demandent chaque fois, cette année encore plus que les autres années, s'ils peuvent rester plusieurs jours pour voir une bonne partie du programme. Mmh. Et ça, c'est pas la fonction première. On n'est pas un festival qui est un marché de cinéma. Mais si c'est un effet secondaire, ma foi, tant mieux. Et d'ailleurs, plusieurs fois, on nous a demandé, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un festival pareil en Amérique latine ? Alors, parfois, on nous avait demandé dans des pays, ça serait vraiment difficile, parce que c'est des pays qui sont assez difficiles d'accès pour des cinéastes, par exemple Nicaragua, mais
qui n'ont pas les salles aussi pour présenter.
Oui, les salles. Vous savez ce qu'elles sont devenues, les salles en Amérique latine, avec des exceptions. Non, c'est des salles de réunion des nouveaux cultes évangélistes. Avec des exceptions importantes. Par exemple, maintenant en Colombie, il y a des gens qui construisent des salles parce que ils peuvent sortir la nuit, ils n'ont plus peur de se faire enlever et ça c'est important.
Alors Jean-Pierre Montage, je rebondis sur vos propos. Ces églises, justement, on a vu qu'elles ont eu un rôle fondamental dans la campagne pour les élections au Brésil, et que les gens, puisqu'ils fonctionnent avec des applications gratuites, ont reçu par leurs prêtres, leurs pasteurs, comme ils disent, des directives pour les élections. On voit où ça a mené, d'ailleurs. Quelle est votre opinion par rapport à ce qui se passe? Ben justement, il y a 20 ans, vous étiez engagé comme négociateur, et puis avec votre parcours aussi dans professeur politique par rapport à la Colombie, qui était vraiment réputée pour être très dangereuse. Et maintenant, en fait, les Vénézuéliens qui, à l'époque, vivaient dans la Suisse de l'Amérique latine, fuient vers la Colombie et les frontières se ferment pour eux.
Alors, c'est le premier thème. Et je traiterai d'abord de la situation en Colombie, parce que à la fin des négociations, que je connais un peu pour avoir été bien impliqué dans ce que je pourrais appeler les préliminaires, et qui ont duré des années
avec les FARC
et avec d'autres, et les accords de la Havane pouvaient être soumis au Parlement par le président. La Constitution le permettait, Constitution qui est une des meilleures d'Amérique latine, celle de 91 en Colombie. Et le président, poussé par quoi, je n'en sais rien, et on le saura quand même un jour, a dit non, moi je veux en plus, je veux que le peuple soutienne ce... Et alors il a soumis un texte qui faisait plusieurs dizaines de pages au peuple, sans aucune obligation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le non a gagné, une marge très faible, mais a gagné. Le président était surpris parce que les sondages ne donnaient pas ce résultat. Et au cours de la nuit, il s'est rendu compte que, ma foi, il avait fait vraiment une énorme bêtise. Et le matin, il a commencé par recevoir les milieux évangélistes, c'est-à-dire les surtout pentecôtistes ou autres, enfin, des églises mondiales, mais très spécifiques à l'Amérique centrale et à la Colombie. Et puis, qui avait promu le nom. Et puis, il a dit, mais bon, qu'est-ce qui vous a poussé à recommander le nom comme ça? Et le chef de ce groupe a dit, écoutez, nous avons étudié le nom, le texte, très en détail. Ils avaient aussi parlé d'annexes, ça faisait presque 90 pages, le texte qu'ils avaient étudié. Et nous n'avons vu nulle part le mot Dieu. Alors ça a suffi. Nous, on a dit, ce n'est pas acceptable pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé au Brésil? C'est peut-être un peu différent, parce qu'au Brésil, il me semble que la question de corruption avait atteint des niveaux et des milieux très très différents. En Colombie, c'était pas ça le thème. Le thème, c'était la violence, la justice. C'était la justice ou paix. Plus de justice et moins de paix, ou plus de paix et moins de justice, hein, en gros. Hein. Mm-hmm. Mais au Brésil, c'est une perte d'influence très importante de l'Église catholique. Et une croissance de culte. Vous avez parlé de pasteurs. Les pasteurs sont élus par leurs ouailles, et élus et rémunérés. Et alors, ce qui est curieux, c'est qu'ils sont très divers. Ils ont qu'à voir la liste des appellations. Mais dans des situations pareilles, ils donnent des consignes uniformes, qui sont alors très, 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 très suivies. Je ne sais pas si ce que ça va avoir comme influence sur le cinéma.
Sur les arts en général.
Sur les arts en général. Mmh. Et les périodes dures ont quelquefois été assez favorables à l'éclosion, à la création.
Justement, pour peut-être...
Je ne veux pas me réjouir, mais...
Peut-être pour contourner, parce que là, il est nostalgique de la dictature. Il peut peut-être donner des idées... à l'Argentine ou au Chili, qui ont quitté la dictature il n'y a pas si longtemps. Et en même temps, on sait que sous certaines dictatures, justement, les arts étaient florissants parce qu'il y avait peut-être besoin d'échappatoires, sortes d'exutoires.
Oui, tout à fait, pour quitter un peu l'Amérique latine. Le théâtre sous Franco, en tout cas les 10 dernières années, c'était un théâtre magnifique, très avant-garde, d'ailleurs beaucoup de directeurs européens, et ils semblent avoir oublié qu'ils sont allés quelquefois pendant faire plusieurs séances, plusieurs spectacles à Madrid. Et bon, je sais pas ce que ça va donner, mais il faut pas oublier une chose, pour revenir à, c'est pas au cinéma, mais quand même à la situation du Brésil, qui est différente du Chili en tout cas, et de l'Argentine. Les militaires brésiliens actuellement sont des vrais militaires. Ce ne sont pas
des milices.
Des milices, ce ne sont pas des gens imprévisibles, extrêmement violents, prêts à tout. Ce sont des militaires qui ressemblent à beaucoup d'autres militaires, qui ont beaucoup travaillé avec les Nations Unies, qui sont plus jeunes, qui ont une formation technique importante et par la même occasion une formation éthique assez importante. Je crois que le risque de voir les 4 ou 5 ex-généraux, ou disons généraux en retraite, qui ont été nommés ministres, de les voir se multiplier, c'est relativement faible. En tout cas, ce n'est pas, je ne crois pas qu'ils vont être poussés par les jeunes officiers supérieurs, disant bon, mais maintenant on va tout nettoyer le pays et faire ce que, par exemple, on a pu voir ou on peut voir encore aux Philippines, hein, avec ce qu'on appelle le nettoyage social.
Mais Jean-Pierre Gontard, justement, par rapport au Brésil, ce qui est étonnant, quel regard occidental, après juste les élections, c'est de voir qu'un candidat qui était ouvertement homophobe, misogyne, raciste, avait obtenu les voix de, justement, de métis ou même de gens qui étaient d'origine indigène ou noire. Et des milieux gays aussi, c'était très surprenant. Alors peut-être votre éclairage peut nous aider. En tout cas, par rapport au Venezuela, ce qui surprend, c'est qu'il y avait un héritage qui était assez paisible, assez démocratique, Hugo Chavez. Et là, maintenant, on parle de madurismo. Madurismo, c'est quand même très connoté extrême droite. On n'a plus voix à s'exprimer.
Alors, le Venezuela, c'est un cas un peu particulier. Tout d'abord, le Venezuela a fonctionné d'abord parce qu'il y avait de l'argent. Pétrole. Avant et pendant Chavez, en tout cas les années de Chavez, du pétrole qui est un pétrole un peu spécial, c'est-à-dire il est très difficile à raffiner et la capacité de raffinage est principalement aux États-Unis. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, comme ce qui veut dire que le Venezuela, par exemple, importe du pétrole pour certains usages. Donc ça, c'était pas aussi évident. C'est pas comme des régions où le pétrole est facile d'accès et puis peut être vendu sans trop de problème. Ensuite, le Venezuela a bien fonctionné parce qu'il y avait des centaines de milliers, pour pas dire plus, de Colombiens qui travaillaient au Venezuela, qui venaient, qui étaient payés mieux qu'en Colombie. Et pendant longtemps, le flux était de la Colombie vers le Venezuela. Et dans un premier temps, les réfugiés ont été en partie des Colombiens qui revenaient chez eux. De plus, souvent des familles mixtes. Je ne parle pas simplement de la zone frontière que je connais assez bien. Mais là on a, disons, un premier temps, il y avait des explications. Maintenant, c'est plus grave parce que ça a l'air d'être vraiment des départs en masse de gens qui partent dans des régions qu'ils n'ont jamais connues et et dans lesquelles ils ne veulent pas nécessairement s'installer. Ils partent vers le Chili. Ce n'est pas les États-Unis, parce qu'ils savent que les États-Unis, ça va être très difficile. Alors, ils traversent la Colombie avec un peu d'argent qu'ils ont encore.
Des passeurs.
Des passeurs.
Parce que le Pérou a fermé ses frontières.
Oui, attendez. L'Équateur, ces derniers mois, fournissait des autobus à la frontière de colombienne pour les amener à la frontière du Pérou. Parce que les relations entre le Pérou et l'Équateur n'ont jamais été très bonnes. Il y a quand même eu une guerre il n'y a pas tellement longtemps. Et alors, l'idée du gouvernement équatorien, c'était on amène tous ces gens, puis ils vont continuer, ils vont traverser. Et les réfugiés étaient d'accord, parce qu'ils veulent aller au Pérou. Ils sont persuadés que le Pérou, que le Chili, c'est le Pérou, si je peux faire...
L'Eldorado contemporain.
Oui, exactement. C'est vrai, il y a des salaires qui sont élevés, il y a du boulot, et peut-être que pour des travaux de main-d'œuvre relativement peu qualifiée, la main-d'œuvre qualifiée, elle est partie déjà.
Ils seront embauchés,
oui.
Et à propos de flux migratoires, vous parliez de flux migratoires, Jean-Pierre. Oui. Ceux qu'on voit partir de l'Amérique centrale, en particulier Honduras, Costa Rica, vers les États-Unis, alors qu'ils savent pertinemment que la politique actuelle, l'occupant à Washington de la Maison-Blanche, n'est pas forcément accueillante. Bien au contraire.
Oui, mais ils connaissent les États-Unis. Ils savent que s'ils vont en Arizona, s'ils vont en Californie, surtout en Californie, mais aussi en Arizona, et surtout les Salvadoriens, les Honduriens, c'est un peu différent. Ils ont une bonne réputation, ils ont des copains sur place, et les employeurs sur place les attendent. En Californie, Ils disent, tu connais pas des gars du Salvador qui veulent venir travailler? Donc, pour eux, c'est une image plus correcte de la diversité des États de l'Ouest que d'ici. D'ici, on fait un amalgame, comme si Trump était le patron suivi, obéi par tout le monde dans tous les États-Unis. C'est pas tout à fait ça. Il me semble que je connais assez bien l'Ouest des États-Unis pour y être allé assez souvent. Et quand ils auront traversé, ils seront sans doute assez bien.
Mais la Californie a toujours été un peu positionnée à part.
Oui, mais même, et j'insiste, même l'Arizona. L'Arizona, où à un moment donné, c'était le pays de Goldwater, c'était l'extrême nord. Les planteurs de coton en Arizona, ils n'attendent que l'arrivée de ces gens-là.
De main-d'œuvre agricole.
Oui, oui. Ou même main-d'œuvre de service. Alors que c'est des gens qui ont le fusil dans la voiture et qui ont toutes les caractéristiques de gens très, très, comment dire, très réactionnaires, pour employer un mot qui est de moins en moins utilisé, mais qui a quand même une signification.
Alors Jean-Pierre Gontard, on quitte l'Amérique latine, même si on parle du Festival Filmart, juste pour avoir votre éclairage, votre opinion sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Parce qu'il y a plus de 20, maintenant c'était 95, on a cru vraiment quand Yasser Arafat et Yitzhak Rabin négociaient, on a cru vraiment qu'on allait aboutir à la paix. Malheureusement, on sait comment ça s'est soldé. Depuis, on dirait qu'on s'enlise de plus en plus. Et que...
Oui, c'est vraiment très triste. Pour avoir travaillé en Jordanie pendant Septembre Noir et avoir eu l'occasion de discuter des choses très sérieuses avec Yasser Arafat, on pouvait espérer que les choses s'améliorent assez rapidement, s'améliorent de façon parfois injuste. Par exemple, le gouvernement jordanien donnait aux prisonniers qu'il faisait pendant Septembre Noir, aux prisonniers palestiniens, suivant leur affiliation politique, il leur donnait deux repas par jour ou un. C'est-à-dire qu'ils sélectionnaient à l'avance les gens avec qui ils voulaient discuter. Au pont Allenby, les camions arrivaient d'Israël, chargés, et ils avaient un parking spécial. Ils enlevaient les plaques israéliennes, ils mettaient les plaques jordaniennes et ils montaient à Amman pour ravitailler Amman en pleine crise. Quand on voyait ça, des gens comme moi qui n'ont pas vécu au Moyen-Orient, je ne suis pas né là-bas, enfin, je connais un peu, mais on disait, bon, mais ça va finir par s'arranger, ça. Et puis on voit au contraire que non seulement ça ne s'arrange pas, mais on revient au thème des migrations, que les migrations, elles vont vers la Palestine, mais les migrations d'Israéliens. Avec, quand on voit les photos des colonies, des nouvelles colonies, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça, c'est une difficulté à très long terme. Il faut oublier quand même qu'il y a eu des centaines de milliers, pour ne pas dire peut-être même presque un million, de nouveaux immigrants qui sont venus de derrière le rideau de fer. Et il faut bien sûr les loger, leur trouver du boulot, mais enfin, ça aurait pu se faire d'une façon plus conforme à ce que certains, y compris présidents américains, ont essayé de faire, et certains politiciens palestiniens, certains politiciens israéliens, qui ont parfois été tués, et non seulement ils n'ont pas pu réussir, mais actuellement on a une impression de période glaciaire où les facteurs les plus graves sont en train de se figer et de devenir extrêmement durables. Donc je suis très très pessimiste sur cette région-là. Et je ne suis pas d'ailleurs sûr que l'implication de la Turquie change grand-chose. En Turquie, ils ont peut-être un peu la nostalgie de la période où ils étaient les patrons de cette région.
L'Empire ottoman.
Oui.
Et puis alors, pour terminer notre entretien, là, on vient de commémorer l'armistice 14-18. Alors, il y avait l'absence complète des représentants des anciennes colonies. On parlait de tirailleurs sénégalais, mais en fait, c'était toutes les anciennes colonies de la France, les Malgaches, les Camerounais, les Burkinabés, qui étaient à l'époque de la Haute-Volta, bien sûr le Maghreb, les deux protectorats et le département d'Algérie. Apparemment, on les a oubliés pour les commémorations. Pourquoi il n'y a pas de représentants? Et d'autre part, ce qui a surpris et choqué, c'était la présence de Netanyahou, parce qu'il semble que en 14-18, il n'y avait pas encore l'Israël.
Oui. Sur la présence de Netanyahou...
C'était une récupération à pas.
Non, après les... non. C'était une volonté, en tout cas du gouvernement français et aussi de l'Union européenne, de parler du futur, pas seulement du passé, de tirer des leçons du passé pour le futur. Donc ça me dérange pas. Je crois aussi que il y avait quelques représentants des anciennes colonies. Par exemple, il y avait des Maliens, des Sénégalais, il y avait le président du Rwanda. C'est pas grand chose.
Non, par rapport aux hommes tombés qui étaient envoyés en char à canon.
Tout à fait, parce qu'il y a quand même au moins 100 000 soldats d'Afrique qui sont. Je parle de la Première Guerre mondiale, parce qu'il y en a eu aussi, bien sûr, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je le regrette, mais c'est pas fondamental par rapport à l'attitude destructive, non pas une attitude prudente, mais destructive. Du président américain, qui était une façon de dire, mais vos histoires, c'est du folklore. Et ça c'est très dommage, parce que ça rappelle au fond ce qui s'est passé à la fin de la Première Guerre mondiale. On a toujours parlé du traité de Versailles, mais ce qui était bien plus grave, c'est le fait que les Américains ont, le peuple américain a refusé de confirmer les engagements qu'avait pris le président Wilson. Et c'était l'échec de la Société des Nations. Et on peut faire un parallèle en disant, mais est-ce que c'était pas, est-ce qu'on n'assistait pas à au moins un recadrage de l'influence des Nations Unies pour en faire une espèce de rencontre entre des organismes techniques, et en disant, la politique, c'est pas pour vous. La politique, c'est nous, les puissants, qui allons la faire. Les Nations Unies, c'est aide humanitaire, c'est santé, c'est éventuellement règles commerciales, mais pas beaucoup plus. Ça me préoccupe beaucoup plus. Mais évidemment, s'il y avait eu plus de gens d'Afrique, je n'aurais pas été contre. En particulier des anglophones,
Merci Jean-Pierre Routard pour cet éclairage à la fois sur l'Amérique latine, que vous connaissez très bien, et sur d'autres régions du monde, qui préoccupent beaucoup et qui ont un avenir incertain. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. On rappelle que les 20e édition du Festival Filma, ça commence d'ici peu, et que vous avez peut-être des recommandations par rapport au débat pour les auditeurs.
Venez de l'ouverture. Nous avons la grande chance d'avoir la participation de Michel Bachelet, qui va ouvrir le festival. Et donc, vendredi, Michel Bachelet, si c'est nécessaire de le rappeler, qui avait été non seulement arrêté, son père, militaire loyal, assassiné, elle torturée, sa mère aussi, et qui ensuite a été la première, je crois pouvoir dire que c'était la première femme d'Amérique latine qui était ministre de la Défense, ce qui n'est pas... Dans un continent
machiste où... encore.
C'est vous qui le dites, mais moi je
confirme. Mais je l'assume.
Et bon, elle a accepté de venir ouvrir le festival. Et donc venez dès le début Et pour moi, c'est une bonne façon de sa part de montrer qu'elle apprécie les 20 premières années du festival. Il y en aura beaucoup d'autres.
Alors, le rendez-vous est donné. Voilà. Muchísimas gracias. Merci, Jean-Pierre.
Voilà. Merci à vous. Allez.